Bonjour Nouvelle Vie de Drummondville! Hey! Joyeuse Pâques à tous! C'est une joie d'être avec vous. Et en d'autres mots, quand votre pasteur me présente comme étant un vétéran, il essaie juste de dire que je suis vieux. C'est juste ça. Mais c'est pas grave, un jour ça va être son tour. Alors, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une joie d'être avec vous. Le titre du message en ce dimanche de Pâques, « Mon réconfort dans la solitude ». Mon réconfort dans la solitude. Mon texte est un texte qui est absolument déchirant, qui prend place alors que Jésus est crucifié. Et ça nous dit ceci dans Matthieu 27. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, c'est-à-dire de midi à trois heures. Pour nous, dans notre horloge à nous, c'est de midi à trois heures. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné. » C'est un cri qui est déchirant. C'est le cri le plus déchirant de toute l'histoire de l'humanité. Le cri où le Fils de Dieu s'est senti abandonné par Dieu le Père. Le Fils se sent abandonné par Dieu le Père. Comment s'explique cet abandon au sein même de la Trinité? Martin Luther a passé des heures à réfléchir, à lire, à méditer, à lire pour comprendre ce passage-là. Et voici ce qu'il en a conclu. Dieu qui abandonne Dieu. Comment est-ce possible? Et c'est tout. En d'autres mots, il ne l'a pas compris. C'est comme impensable. Comment est-ce que Dieu peut abandonner Dieu au sein de la Trinité? Je vais donc laisser ce dilemme théologique, je vais le laisser aux théologiens. Je vais leur laisser ça. Ce que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est porter mon attention sur le cri, le sentiment d'être abandonné. De la douleur qui est associée à l'abandon et à la solitude. Et peut-être réaliser qu'il y a quelque chose qui résonne en nous parce que peut-être on sait c'est quoi cette solitude-là. Peut-être qu'on sait c'est quoi ce rejet-là. Peut-être qu'on sait c'est quoi cette souffrance. Et à travers cette histoire, à travers ce texte, y trouver des pistes pour trouver mon réconfort dans ma solitude. Qu'est-ce qui était la source de cette solitude-là pour Jésus? Jésus a été abandonné et rejeté par la foule. Les religieux de l'époque ont rejeté Jésus. Et j'aimerais vous dire que les religieux, encore aujourd'hui, rejettent Jésus. Amen. Si c'est encore le cœur religieux, c'est encore difficile d'accepter la grâce que Jésus offre à des gens. Si c'est encore basé sur la lettre au lieu de l'esprit, l'esprit, c'est de la difficulté des fois avec les enseignements de Jésus. Les religieux ont eu de la difficulté, ont rejeté Jésus. Mais il y a la foule aussi qui a rejeté Jésus. La foule qui a rejeté Jésus, la même foule qui une semaine auparavant disait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et même, ils vont même ajouter, voici le roi d'Israël, des chants d'adoration dans le dimanche des rameaux, des chants d'adoration, de déclaration. Hosanna! Et une semaine plus tard, il crie, crucifie-le, crucifie-le. Et ils sont au pied de la croix, alors que Jésus est crucifié, et ils se moquent de lui. Si tu es celui que tu dis que tu étais, descends de la croix, fais un miracle, allez, fais-nous un spectacle. Ils se moquent de lui. Les amis, les disciples de Jésus ont également rejeté Jésus. Pire, c'est Judas, un des douze, qui a trahi Jésus. Pierre, Jean et Jacques, dans le jardin de Gethsémané, sont tombés endormis alors que Jésus avait besoin et terriblement besoin d'eux. Et ils sont tombés endormis. Pas une fois, trois fois. Alors que Jésus leur a dit, « Mon âme est triste en mourir. Laissez-moi pas seul. Restez autour de moi, parce que mon âme est triste en mourir. » Dans l'Évangile de Luc, ça va même dire que Jésus a été saisi d'angoisse. Une angoisse tellement profonde, tellement intense que des grumeaux de sang ont sorti de son visage. Ça fait toujours sourire quand j'entends des gens dire, « Un chrétien, ça ne devrait pas avoir d'angoisse parce que c'est un chrétien. » Il doit avoir un problème avec Jésus, là, parce que là, il est dans l'angoisse. Là. Hein? Quand la situation est angoissante, c'est correct de se sentir angoissé. Amen. Jésus saisit l'angoisse, dit, les gars, laissez-moi pas tout seul. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent endormis. Ils l'abandonnent et le laissent seul. Mais il y a aussi l'abandon de Dieu dans ce cri. Le sentiment de se sentir abandonné par Dieu. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer une chose pareille? Ésaïe avait dit, « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, c'est-à-dire la faute de nous tous. » Dieu a fait retomber sur Jésus la faute, notre faute, sur lui. Et à la croix, Jésus a pris sur lui la dette de nos péchés. Pas des siens, il n'y en avait pas, mais la dette de nos péchés. Et le péché provoque toujours un éloignement de Dieu. Toujours. Et c'est ce qui explique le phénomène qui vient de prendre place avant le cri. Il y a eu 3 heures de noirceur sur la terre, de midi à 3 heures. Et il y a des gens qui ont dit, ben oui, c'est parce qu'il y a eu une éclipse solaire. Ah bon? D'accord. Le problème avec ça, c'est que la Pâque est toujours célébrée à la pleine lune. Et il ne peut pas y avoir d'éclipse solaire à la pleine lune. Deuxièmement, une éclipse solaire ne dure pas 3 heures. Les gens disent, ah non. C'est parce qu'il y a eu une tempête de sable. Et la tempête de sable a caché le soleil. Le problème avec ça, c'est que la Pâque est toujours célébrée à la saison des pluies. Ça aurait été plus une tempête de boîte. Non, la vraie raison, c'est que les ténèbres, c'est le symbole de l'éloignement de Dieu qui se sépare, de Dieu qui s'éloigne. Lui qui est la source de la lumière, s'éloigne. Dans Amos 8, des siècles auparavant, le prophète a écrit, « En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurirai la terre en plein jour. » Ça avait déjà été annoncé, que c'est ce que Dieu était pour faire. Dans Jean 3, 19, ça dit, « Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les ténèbres sont toujours la noirceur, c'est toujours la présence du péché. » Et ici, ce qui prend place, Jésus se retrouve dans une solitude profonde par le rejet et l'abandon des gens autour de lui, mais l'éloignement de Dieu dû au péché, notre péché, nos péchés, qu'il a pris sur lui. Et ceci est souffrant, c'est souffrant la solitude. Tu vois, le cri de Jésus ici n'est pas juste un questionnement intellectuel, mais l'expression d'une souffrance profonde. Parce qu'à la croix, Jésus a souffert physiquement, mais Jésus a souffert émotionnellement et Jésus a souffert spirituellement. La souffrance, la solitude humaine. Déjà, dès le début de la création, il est écrit, c'est pas bon pour l'homme, c'est pas bon pour l'humain d'être seul. Philip Keller a dit, plus l'amour est long et profond, plus le tourment est grand à sa perte. Plus l'amour est long et profond, plus le tourment est dur et intense à sa perte. C'est la différence entre être rejeté et abandonné par quelqu'un qu'on rencontre. Ça m'arrive, pas à Drummondville, mais ça m'arrive des fois, je vais dans des églises, qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Puis c'est le fun parce qu'il y en a qui viennent me le dire. Tu sais, ils veulent... t'aimes vraiment pas, toi. Amen. Mais sois béni. J'ai eu quelqu'un qui m'avait dit, une des premières fois que je prêche à Nouvelle-Ville, à Longueuil, quelqu'un vient me voir après. Puis, ouais, ben en tout cas, tu prêches vraiment pas comme... Puis là, il me nomme le nom d'un autre pasteur. Fait que j'ai regardé la personne, puis je suis parti à la rive, j'ai dit, bien, merci beaucoup. Il était un peu déstabilisé, là. Tu sais, le responsable de la relation d'aide, là, il dit, je viens de l'envoyer, puis là, il rit, lui. Bien, j'ai dit, merci beaucoup. Parce que j'ai dit, j'aspire pas à prêcher comme l'autre. Je suis juste moi. C'est tout ce que j'ai. Fait que je peux pas prêcher comme l'autre. Fait que ça arrive des fois qu'il y a des gens qui vont... Mais vous comprenez que le même commentaire qui sort de la bouche de mon épouse, je suis détruit, là. Je suis détruit. Ouais, t'es vraiment pas bon. Tu prêches pas comme un... Dépendamment de la relation, la souffrance en est reliée quand il y a une brisure, quand il y a un abandon, quand il y a un rejet.
Mais Jésus, dans l'expression de cette souffrance, dans l'expression de cette douleur, rend légitime mon sentiment de douleur quand je suis rejeté puis abandonné. Jésus le rend légitime. C'est correct de sentir que ça fait mal. C'est correct de se sentir déchiré. C'est correct de ressentir ce sentiment-là quand je me retrouve tout seul. Et peut-être as-tu vécu le rejet et l'abandon. Le rejet et l'abandon de personnes qui étaient proches de toi. Peut-être ça a commencé très tôt dans ta famille. Très jeune, on t'a rejeté. Très jeune, on t'a abandonné. Peut-être c'est arrivé avec des amis. Peut-être c'est arrivé avec un conjoint ou une conjointe. Ou le mariage. Pas à cause de... c'était pas ce que tu voulais, mais le mariage a été détruit. Peut-être tu l'as vécu dans l'église. Ou parfois tu es allé voir dans l'église pour avoir de l'aide et tu as reçu du jugement. Tu as été abandonné. Tu as été rejeté. J'aime tellement la phrase de Saint-Augustin. C'est ce qui m'anime. Saint-Augustin a dit ceci. L'église est appelée à être un hôpital pour les pécheurs et non pas un musée pour les saints. Ça veut dire que quand tu rentres dans un hôpital, tu n'es pas surpris de voir des malades. Amen. Puis tu n'es pas... Qu'est-ce qu'ils font ici, tout ça? Tu fais là, lui, malade de même. Fais ici. Mais non, tu es à l'hôpital. Ah, qu'on puisse le traduire dans l'église. Quand les gens ne vont pas, quand les gens ne filent pas, quand les gens souffrent, on se dit pas que je fais ça. Amen. C'est très tranquille, hein? C'est très silencieux. C'est correct. C'est bon. Puis vous pourrez venir me voir après. Vous dites, t'es vraiment pas bon, toi. Tu peux. Mais la douleur, la souffrance d'avoir été rejeté, peut-être tu l'as vécu pendant la pandémie. Cette souffrance d'être seul. Je me souviens dans un des pics de la pandémie. Comment il y a des gens qui faisaient de la route pour venir me voir. Et je disais, on peut le faire en ligne, c'est correct. Non, non, je suis toujours en ligne. J'aimerais ça voir un humain. La souffrance d'être seul, la souffrance pendant la pandémie. Et c'est légitime de ressentir cette douleur-là. C'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est pas bon pour l'humain d'être seul. Mais aussi la souffrance, la solitude spirituelle. Parce que la pire souffrance pour Jésus, c'est la perte de l'intimité, la perte de connexion avec Dieu le Père. Elle a sa pire souffrance. Et tu as remarqué ce que Jésus a dit? Jésus a dit, mon Dieu, mon Dieu. Jésus n'a pas dit, mon Père, mon Père. Jésus a dit, mon Dieu. La connexion, l'intimité est coupée. Il y a un sentiment de solitude profonde. Et quand il crie, cette souffrance-là, Jésus est en train de citer ce que David avait exprimé également dans le psaume 22, le verset 2, quand c'est écrit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Pourquoi tu t'es éloigné? L'autre psalmiste a écrit dans le psaume 88, « Pourquoi, Éternel, reposes-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? » Tu m'abandonnes, je me sens abandonné par toi, je ne sens pas que tu es là. Mais ce faisant, encore une fois, Dieu, Jésus me donne la permission d'aller à Dieu pour lui dire ce que je ressens. Voici comment je sens que Dieu m'a abandonné. Je sens que Dieu n'est plus là. C'est ça mon sentiment. Puis c'est correct de le dire. Des fois, il y a des gens qui viennent dans mon cabinet et ils me disent, je vois les choses, je suis capable de sentir. Puis je dis, non, je ne veux pas le dire à voix haute. S'il n'est pas trop fort, comme ça, Dieu ne le saura pas. Alors que Dieu connaît ton cœur. Il sait la moindre pensée qui est dans ton cœur. C'est correct. Tu as le droit. Tu as le droit de ressentir cette émotion-là, d'exprimer ce sentiment-là à Dieu. Quand j'ai l'impression que les cieux sont silencieux, hein, comme la Bible dit, le ciel est d'airain. Hein, c'est qu'il est en acier inoxydable, que tes prières montent faible par fond, tombent à terre. Ça ne va pas plus loin que ça. Quand tu as le sentiment qu'il n'y a rien qui passe, que Dieu est loin, parce que l'épreuve, la souffrance persiste. Tu te lèves le matin, tu es encore dans ta souffrance. Quand la solitude persiste, quand je ressens cette douleur du sentiment d'abandon de Dieu, je peux aller à Dieu avec ce sentiment-là. Je ne suis pas disqualifié. Je ne suis pas un mauvais chrétien. Je suis juste en agonie. Je suis juste dans la souffrance. Mais il y a une solution dans cette solitude-là que Jésus nous présente. Je peux venir à Dieu avec ma souffrance, ma confusion, mon incompréhension, le sentiment de rejet et d'abandon. Je peux venir à Dieu parce que Jésus me comprend. C'est réconfortant, non? Jésus me comprend. Avant son mariage, le prince Harry, vous connaissez le prince Harry, là, c'est le petit dernier. Là. OK, lui, là. Gros dilemme. Gros dilemme. Pendant la préparation au mariage, une grande question à se poser. Et la question était, mais dans quel des quatre châteaux allons-nous vivre? Pas au tipit. Grande question, mais on va vivre dans quel château exactement? Là, on en a quatre. Puis oui, j'ai vu l'entrevue avec Oprah, puis oui, je sais qu'il est rendu en Californie, puis là, il est assis sur le bord de l'océan dans une maison de 14 millions. Potipit. J'ai comme le sentiment que si j'ai des problèmes financiers, tu sais, quand tu as de la misère à finir ton mois, que tu payes ta carte de crédit avec l'autre carte de crédit, hein? Tu arrives à payer le loyer, puis tu dis, OK, là, je ne peux pas dépenser autant, puis là, je vais. Hein? Puis que tu rends grâce à Dieu à tous les jours pour Dollarama. Hein? Puis tu sais, gros géant pour acheter de la bouffe pas chère. J'ai comme l'impression que le prince Harry ne comprendrait pas. J'aurais pas le goût d'aller me confier à lui pour ces genres de difficultés-là, parce que je suis convaincu qu'il ne me comprendrait pas. Mais combien il est bon de savoir que Jésus me comprend. Il n'a pas été un prince qui vivait dans des châteaux, il a été un serviteur qui a marché sur cette terre. Parmi nous. Parmi nous. Et Jésus, dans son cri, me donne le réconfort de savoir, Jésus, je me sens abandonné, c'est dur, je me sens tout seul, je suis dans une solitude, Jésus. Ça me fait mal. Et de savoir que Jésus dit, oui, je sais, je comprends. J'ai vécu ça aussi. Je comprends ton sentiment. Il sait ce que c'est que d'être rejeté et abandonné. Mais la solitude profonde, la solution profonde, pardon, est de réaliser et de vivre le fait que je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Viktor Frankl, qui était un psychiatre, c'était un disciple de Freud. Et il s'est chicané avec Freud. Parce qu'il dit, Freud, où est-ce qu'il est Dieu dans ta théorie, là? Où est-ce qu'il est Dieu dans ton approche thérapeutique? Où est-ce qu'il est Dieu? Et Freud a dit, Dieu, non, j'en veux rien savoir de Dieu. C'est lui la cause de tous les problèmes des gens. Et Frankl a dit, non, tu te trompes. Et il va quitter Freud et il va développer sa propre approche thérapeutique, la logothérapie. Mais Frankl va dire ceci. Tout être humain souffre d'une profonde dépression existentielle quand il prend conscience qu'il vient au monde seul et qu'il va mourir seul. Bonne semaine. Laisse-nous pas là, là. Frankl continue en disant, mais la seule solution pour se sortir de cette dépression existentielle, c'est de réaliser que je ne suis jamais seul, que Dieu est toujours là. À ma naissance et à ma mort, Dieu est là. Dieu est là. Et ce que tu as besoin de réaliser de M. Frankl, c'est qu'il n'a pas écrit ça juste pour avoir une belle, sur sa page Facebook, là, une belle petite phrase là, pour... Non. M. Frankl a survécu au camp de concentration. Son épouse a été tuée. Sa famille a été décimée par la Gestapo. Lui a réussi à vivre, à survivre. Et il raconte dans son autobiographie, « Mais je savais que Dieu était là. Je n'étais pas seul. Je n'ai jamais été seul. » Remarque la prochaine parole que Jésus a prononcée à la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et la prochaine parole, il va dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Tu as vu ce qui vient de se passer? « Mon Dieu, Père. » Il y a quelque chose qui vient de revenir. Il y a quelque chose qui vient de prendre place. Père, Père. Jésus a vécu la noirceur profonde de l'éloignement de Dieu à cause de nos péchés, afin que nous ne la vivions jamais. Que jamais nous aurons à vivre la noirceur que Jésus a vécue. Il a vécu notre noirceur pour qu'on puisse être dans la lumière. Même quand c'est mes propres péchés qui provoquent cet éloignement-là, même quand c'est moi qui en ai la cause, il ne cesse pas de m'aimer. Rappelle-toi quand Adam a chuté. Hein? Et quand Dieu, il dit, « Adam, t'es où? » Il est allé se cacher. « Adam, t'es où? » Me voici. Pauvre petit pète. Il n'avait vraiment pas compris comment on jouait à cachette. Là. Tu restes caché jusqu'à temps que l'autre te trouve. Me voici. Mais tu vois, c'est Dieu qui prend l'initiative de venir à sa recherche. Ce n'est pas Adam qui prend l'initiative de revenir à Dieu. Non. C'est Dieu qui prend l'initiative de retrouver Adam. Et c'est la même chose pour toi et moi ce matin. C'est la même chose. Dans 1 Jean 4, il est écrit ceci. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tu comprends que tout ce que nous faisons, notre louange, notre dévotion, nos services, notre amour, c'est tout en réponse à son amour. C'est pas pour la gagner. C'est pas pour la gagner. Si tu es encore dans les œuvres pour gagner l'amour de Dieu, tu es encore dans la religion. Mais dans la grâce, mon Dieu est venu vers moi. Il a fait le premier pas. Dans Galates 3:13, Paul va le dire comme ceci, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Dieu est toujours là. Il ne nous abandonne jamais. Jamais. Psaume 27 dit, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Peut-être que ta mère et ton père t'ont rejeté. Peut-être que ta mère et ton père t'ont abandonné. Mais Dieu t'abandonnera jamais. Dieu va te recueillir. Dans Hébreux 13, il est écrit, « Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Je ne te délaisserai pas. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Dieu est toujours là. Chez les Autochtones, les Cherokees, qui sont aux États-Unis, il y a un rite de passage qu'on fait vivre aux jeunes garçons pour qu'ils deviennent des hommes. Et le rite de passage, c'est qu'on amène l'adolescent, le jeune adolescent, on l'amène dans le bois, le père l'amène dans le bois. Il lui met un bandeau sur les yeux. Et là, il l'assit là dans le bois, puis il doit passer toute la nuit dans le bois. Avec un bandeau sur les yeux. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand il fait noir la nuit, puis tu es dans le bois, on entend tout. Qu'est-ce que c'est ça? Une petite souris qui passe, ou un petit oiseau qui sort. T'imagines l'enfant qui est assis là pendant toute la nuit, l'ado avec un bandeau sur les yeux. Et quand il commence à ressentir les rayons de soleil sur son visage, là, il peut enlever le bandeau. Et quand il enlève le bandeau, c'est là qu'il voit que son père est assis sur la bûche à côté toute la nuit. Son père ne l'a jamais laissé tout seul. J'ai quelqu'un que je connais qui me disait, son fils a consommé et ça a déclenché là, quelque chose au niveau de sa santé mentale. Et le jeune, ça a complètement décroché. Il a dû être hospitalisé d'urgence. Et le jeune a passé la nuit dans une chambre, dans une salle à l'hôpital, en plein délire, en pleine agonie, en pleine souffrance. Ce que le jeune homme ne s'est pas rendu compte, il l'a su juste après. C'est que son père est resté dans le corridor toute la nuit. Il dit, « Mon fils ne savait pas que j'étais là, mais moi, je ne pouvais pas laisser mon fils en arrière. » Ce n'est pas parce que je ne vois pas le soleil la nuit que le soleil n'existe plus. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas Dieu que Dieu n'existe pas. Dieu est là. Dieu ne nous abandonne jamais. Même quand je ne le vois pas, il est là. La question devient donc, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est comme si je pouvais entendre Dieu, le Père, dire ceci. Je t'abandonne pour que eux ne se sentent jamais abandonnés. La réponse à la question, pourquoi, c'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est pour ça qu'il a été abandonné, parce qu'il a pris sur lui ce qui me revenait, pour que moi je ne vive jamais cet éloignement, jamais cette séparation, que je sente jamais l'abandon de Dieu. Dans Ésaïe, il est écrit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Dieu ne peut pas t'oublier, parce que toutes les fois qu'il regarde Jésus, il voit les cicatrices sur ses mains. De l'œuvre, t'es gravé sur ses mains. Tu ne peux pas être oublié. Quand même une femme oublierait, c'est la relation la plus intense, la plus intime. C'est pratiquement impossible qu'une mère peut oublier l'enfant qu'elle a porté, l'enfant qu'elle a allaité. Mais Dieu dit, même si ça pouvait arriver là, dans la chute, puis des fois la défaillance humaine, pour toutes sortes de raisons, même si ça pouvait arriver, le lien le plus intense, même si ce lien-là brisait, moi, jamais, je vais t'oublier. T'es gravé sur mes mains. Oui, c'est souffrant d'être rejeté, d'être abandonné. C'est souffrant de se retrouver seul. Et parfois, ça peut être après avoir investi des années dans une relation et de finir seul. Des années d'amitié. Des années dans un mariage. Des gens qui parfois me disent, « Tu sais, c'était vraiment pas mon plan de match à mon âge de me retrouver seul. » C'est pour ça que j'avais rêvé, là. C'est pas ça le rêve. C'est souffrant. C'est souffrant. Plus l'amour a été long et profond, plus la souffrance est douloureuse. Mais combien réconfortant de savoir que Jésus comprend, que Jésus m'accueille. Tu peux aller à Jésus avec ta souffrance. Tu peux aller à Jésus avec ta douleur, parce qu'il te comprend. Alors que les musiciens, moi, se joindre à moi. Jésus est là. Et il comprend ta souffrance. Mais l'ultime agonie d'être seul dans l'univers a été soulagée par le sacrifice de Jésus à la croix. L'ultime agonie, c'est un des effets pervers de la théorie de l'évolution de M. Darwin, un des effets très, très, très pervers, c'est que la théorie dit, dans le fond, qu'on est ici par pur hasard, on flotte sur un gros caillou, puis après, c'est la mort, puis il n'y a plus rien. Fait que, mangeons et buvons, parce que demain, nous mourrons. Tu comprends l'agonie? Tu comprends l'agonie? Quand tu prends conscience de ça, tu te dis, c'est ça la vie? J'avais 22 ans quand j'en ai pris conscience. C'est ça la vie? Je vais travailler, je vais prendre ma retraite, je vais mourir. C'est ça la vie? C'est là que j'ai eu mon expérience avec Jésus de dire, non, il y a plus que ça. C'est pas vrai qu'il y a juste ça dans la vie. C'est pas vrai qu'il y a juste de flotter sur un caillou pendant un certain nombre d'années et après, il n'y a plus rien. Si c'est le cas, c'est une joke qui est plate. Et regarde autour de toi. Regarde autour de toi les gens qui sont dans cette agonie, ils le savent. Et regarde ce qu'ils font pour essayer de s'en sortir. Regarde ce qu'ils font pour essayer de s'engourdir. Regarde ce qu'ils font pour ne pas toucher à cette douleur-là qui est là. Mais si tu peux le voir, tu as le message. On va dire, non, non, j'ai un message. C'est pas vrai que tu es tout seul. C'est pas vrai que tu es tout seul sur cette planète qui flotte. Non, Dieu est là. Dieu est là. L'agonie ultime de se sentir seul et soulagé parce qu'il a pris sur lui ce qui nous revenait pour me donner ce que lui avait. 2 Corinthiens 5, dernier texte pour ce matin. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Wow! C'est comme si Jésus a pris toute la saleté qui nous revenait, puis dit, donne-moi là, tous tes vêtements sales, tous tes vêtements déchirés, là, qui ne sentent pas bon, donne-moi ça. Je vais le prendre. En échange, je vais te donner mon vêtement blanc. Et quand Dieu, le Père, va te regarder, il va t'avoir pur. Justice de Dieu. Pas à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que j'ai fait. Jésus a pris sur lui ce qui te revenait à toi pour te donner ce que lui avait. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça la grâce. Que le Dieu parfait, Jésus-Christ, le Fils de Dieu parfait, a pris sur lui toute ma saleté. T'es pas seul ce matin. T'es pas seul ce matin. T'as jamais été seul. Tu dis, wow. Tu connais pas ma vie, là. Tu connais pas mon enfance. Tu connais pas mon adolescence. Je connaissais pas Dieu. Mais juste parce que toi, tu connaissais pas Dieu, ça veut pas dire que Dieu te connaissait pas. À un moment donné, j'ai parlé avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu sais ce que j'ai vécu là, avec un père alcoolique, puis tu sais ce que j'ai vécu. Tu étais où? Tu étais là? J'ai senti le Seigneur dire, oui, j'étais là. OK. Et là, le Seigneur m'a montré des expériences que j'ai vécues, des moments que j'ai vécus. Il dit, tu vois, là, ce que tu ressentais à ce moment-là, là, c'était ma présence. Mais je ne savais pas, on ne m'avait pas instruit dans ces choses-là. Je ne savais pas que c'était la présence de Dieu. J'ai dit, mais tu étais là. Tu as tout vu. Tu as tout vu. Comment tu as réagi quand tu as vu ce que j'ai vécu? Et j'ai senti le Seigneur me dire, Daniel, j'ai pleuré. C'était pas ça que je voulais pour toi. C'était pas pour ça que je t'avais donné la vie. J'ai pleuré. Il y a des gens qui ont manqué autour de toi. Mais maintenant, je suis là. J'ai jamais été absent. J'ai toujours été là. Et non seulement il l'a été, mais il va l'être pour l'éternité. Il va l'être pour l'éternité. On l'a chanté tantôt. Hein? Après 1000 ans, je chanterai encore ses louanges. Il sera là pour l'éternité. Tu ne seras jamais seul. Il t'aime d'un amour inconditionnel ce matin. Même quand tu n'es pas aimé des autres. Même quand les gens te rejettent, même quand les gens t'abandonnent, pour toutes sortes de raisons, Dieu, lui, ne te rejettera jamais. Il t'aime et ne t'abandonnera pas. Même quand c'est toi qui n'es pas aimable. Amen. Soyons honnêtes, il y a des fois qu'on est dur à aimer. Amen. Mais même là, Dieu m'aime. Il ne m'abandonne pas. Il ne me laisse jamais seul. Son amour dure à jamais. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Peut-être as-tu été invité ce matin à venir à l'église parce que c'est Pâques. C'est la première fois que tu viens. Mais ce sentiment d'agonie que j'ai mentionné tantôt, là, de te sentir seul, à flotter sur une planète, à te questionner, y a-tu plus que ça dans la vie? C'est-tu juste ça, la vie? C'est-tu juste... Je veux dire que oui, c'est plus que ça, la vie. Que Jésus a donné sa vie pour toi. Pour que tu puisses être en communion, en relation, ressentir sa présence. Peut-être ce matin, tu voudrais débuter ce pèlerinage-là. Tu dis, ouais, mais je comprends pas tout. T'as pas à t'inquiéter, ça fait 40 ans, puis je comprends encore pas tout. Mais il y a un désir qui est là, il y a une porte. La Bible dit que Jésus tient à la porte de nos cœurs et il frappe, s'il joue, il va rentrer. Puis il va venir manger avec nous. Il va venir s'asseoir à la table, il va dire, bonjour, voici qui je suis, qui es-tu? on va apprendre à se connaître.